Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Et comme chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha avec Rav David Abendanan. Bonsoir.
Bonsoir Bernard.
Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent le vendredi, on l'a dit, on l'a répété. Et Shavua Tov pour ceux qui nous écoutent le samedi soir. Alors on reste cependant, on va dire, collé à notre paracha et vous cherchez toujours une halakha qui pourrait correspondre à ce dont on vient de parler. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, c'est quoi la différence entre un neder? On entend toujours, on a toujours des copains qui disent bli neder, on le dit nous-mêmes, et juré, un serment, une shvoua, comme on dit en hébreu. Alors, déjà, quel est le rapport avec la paracha? Et deuxièmement, quelle différence y a-t-il entre un neder et quand on jure et juré?
Le rapport avec la paracha, Bernard, vous l'aviez vous-même, c'est donc Abraham qui a fait jurer Eliezer lorsqu'il l'a envoyé chercher une femme pour son fils Yitzhak. On a donc cette notion de neder, de serment. Pardon?
Il lui fait jurer de ne pas marier là-bas.
Exactement.
Il lui dit, tu me ramènes quelqu'un, mais sinon tu reviens tout seul.
Exactement. Et c'est une notion qui est extrêmement importante dans la halakha, parce qu'il faut savoir que la parole a une valeur, et on va expliquer au fur et à mesure de ce cours à quel point la parole peut avoir une valeur. Alors, il existe effectivement deux notions, qui s'appellent la notion de neder et de shvoua. En français, il n'y a pas de traduction. Ça veut dire que les deux se traduiront par faire un serment, par jurer quelque chose. Mais ces deux notions font appel à deux façons de jurer. Neder, c'est lorsque je m'interdis un objet. Donc, par exemple, je m'interdis d'utiliser tel livre, je m'interdis d'utiliser telle table, je m'interdis donc un objet. Et shvoua, c'est lorsque je m'engage personnellement à faire quelque chose. Je jure que j'irai là-bas, je jure que je ferai ça. Alors, halakhiquement, ça change quoi? Halakhiquement, ça change que quelqu'un qui ferait la shvoua, donc qui jurerait, qui prendrait sur lui, par exemple, de ne pas mettre les tefillin. Donc il a fait une shvoua de ne pas mettre les tefillin, ça ne fonctionne pas. Étant donné que lorsque nous étions sur le Harsinaï, sur le Mont Sinaï, nous avons tous fait la shvoua, nous avons pris sur nous d'accomplir les mitzvot de la Torah. En revanche, celui qui ferait le neder de ne pas utiliser une paire de tefillin en particulier, eh bien là, le neder fonctionnera. Et même s'il prend sur lui de ne pas utiliser toutes les paires de tefillin du monde, le neder fonctionnera et il faudra, on verra au fur et à mesure du cours là aussi, qu'il fasse un processus pour annuler ce neder qu'il a pris.
Alors, grosse question, est-ce qu'il est convenable de faire des nedarim? Je sais que le judaïsme, il n'aime pas bien. Il n'aime pas, parce qu'après, en général, on a du mal à respecter. Mais on peut aussi demander pourquoi on va faire un neder dans la mesure où je les accomplis toujours. Ça peut être une première question. Puis on peut se demander ensuite, qu'est-ce qu'il en est dans des situations difficiles? Est-ce qu'il y a une mitzvah aussi à prendre sur soi des choses qui sont supplémentaires?
Vous posez plusieurs questions là, Bernard. Effectivement, il y a dans le judaïsme, le Shulchan Aruch, dans le Yoredea, Ilchot Nedarim, les lois des Nedarim, nous dit « Al Teir Agil Ben Nedarim, ne t'habitue pas à jurer ». Et le Shulchan Aruch rajoute « Kol Anoder Afalpi Sheme Kaimo Nikra Racha ». Tout celui qui prend sur lui des Nedarim, des serments qui jurent des choses, même s'il les accomplit, ça s'appelle un rachat, ça s'appelle un mécréant, et Nikra Choté rajoute le Shulchan Aruch, ça s'appelle un fauteur, même lorsqu'on les accomplit. C'est-à-dire que la halakha nous demande, même si je sais que je vais accomplir mon neder, de ne pas prendre sur nous, de ne pas faire des nedarim, de ne pas prendre sur nous des nedarim en plus. Alors, il y a des situations où, par contre, il va y avoir, on va dire, différents avis dans les décisionnaires. Autant là, dans les situations de la vie courante, de la vie de tous les jours, en Shulchan Aruch nous dit de ne pas faire de neder, il ne faut pas, même si je sais que je vais l'accomplir. Autant, par exemple, dans une situation, Lo Aleinu, de douleur, une situation difficile où la personne prend sur lui un neder pour dire, voilà, je prends sur moi de faire telle chose pour la refoua shlema d'un tel, et il fait un neder. Dans toutes ces situations-là, il y a, par exemple, une marloquette, il faut savoir, entre les poskim. Certains pensent que c'est autorisé dans des situations pareilles. Certains pensent carrément, Tosfot pense que c'est une mitzvah dans ces situations. Et il y a d'autres avis, notamment Shita Mekoubetset et le Rajba, qui pensent que là aussi, il y a une interdiction de jurer. Il y a aussi des situations où on pourrait prendre sur nous un neder pour nous encourager à faire une mitzvah. Là, ça va être autorisé, quelqu'un qui va faire prendre sur lui le neder, bien que il y a normalement déjà la shvoua, par exemple, depuis le don de la Torah, on a pris sur nous de mettre les tefillin tous les jours. Eh bien, quelqu'un qui se rajouterait en plus de sur lui le serment, de les mettre, eh bien, ce serment qu'il prendrait en plus, ça va être autorisé, ce sera même encouragé, parce que grâce à ça, ça lui permettra d'accomplir avec plus de conviction et de façon plus régulière les mitzvot que de toutes les façons, il est déjà obligé d'accomplir.
Est-ce qu'il y a des nedarim qui sont invalidés automatiques? Ou bien le contraire, des nedarim qui se valident automatiquement?
Oui, il y a des nédarim qui sont invalidés automatiquement. La Mishnah nous en cite quatre sortes. Par exemple, les nédarim qui sont faits dans le cadre d'une négociation. Ça veut dire quelqu'un qui sera en train d'acheter un objet et il jure, ben je le paierai, je jure que je ne le paierai pas plus que tel prix, ou le vendeur lui jure, je jure que je ne te le vendrai pas plus que tel prix. Chachamim considère que ce ne sont pas des nédarim, c'est de la négociation et il n'y a pas besoin de faire atarat nédarim, d'annuler dessus. Quelqu'un qui fait des nédarim ridicules, la Gemara rapporte, j'ai vu un chameau qui volait ou des choses comme ça. Il y a des situations aussi où quelqu'un pourrait faire un néder parce qu'il est forcé à le faire. Et vous savez que je vous invite à regarder, à rechercher historiquement, il y avait des situations comme ça, même en France, hein, où on forçait les Juifs à faire des nédarim dans certains cas. Eh bien, ce néder-là, il n'a pas de valeur. Et donc, dans ces situations-là, le néder n'a pas de valeur, il n'y a pas besoin de l'annuler. En revanche, d'un autre côté, il faut savoir que lorsqu'on a un comportement de mitzvah, un comportement souhaitable, un comportement de, on va dire, qui va dans le sens même de la chumra, qui va dans le sens d'embellir les mitzvot, et qu'on ne dit pas bli néder, eh bien, une fois qu'on a pris l'habitude d'avoir ce comportement devient automatiquement un néder. À partir de ce moment-là, la personne va devoir faire atarat nédarim, en fait, annuler son néder, puisqu'elle a pris sur lui un néder, sur elle un néder, sans même le savoir. Donc, il faut savoir que quand on prend une habitude de mitzvah, prendre sur soi, de toujours dire bli néder, je prends cette habitude bli néder sans faire de néder, sinon le néder est automatique, systématique.
Je me souviens, je crois hein, que si je dis je fais le néder de ne pas circoncire mon fils, c'est automatiquement invalidé parce que non, tu circoncieras ton fils et point barre. Mais je suis pas.
Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a appelé au début la jvoua. Donc en fait, c'est pas un néder, c'est une jvoua puisque c'est sur une action. Et cette jvoua là, elle n'est pas validée parce que effectivement, depuis le Mont Sinaï, on avait déjà la jvoua inverse.
Ouais, il fallait le contraire. Tu circonciras ton fils. Allez, on va être très juif de France. Bémet sur ma vie, sur la vie de je sais pas quoi. Sur, c'est un néder et surtout, est-ce que c'est autorisé parce que bon, voilà, c'est juste. Je ne sais pas, c'est souriant, quoi.
Oui, alors c'est souriant, ça rentre dans le champ lexical habituel des promesses. Et on pourrait analyser, en fait, si vous voulez, on va analyser rapidement chacun de ces termes. Béhémet, c'est un terme qui est problématique, puisque d'après certains, Béhémet, c'est une façon de jurer. Et là, on a expliqué qu'il ne faut pas jurer pour rien. Sur ma vie, Rav Ovadia Yosef rapporte que c'est aussi, ça pourrait être grave parce que ta vie ne t'appartient pas, à l'intérieur de toi-même il y a une neshama, cette neshama c'est une partie de Dieu, donc quelque part est-ce que ce ne serait pas comme si tu jurais un petit peu sur Dieu, donc c'est aussi un terme à éviter. Après sur le kotel, sur la mezouza, tout ça ce sont des termes qui ne veulent rien dire halakhiquement, qui n'ont aucun sens, et dès lors que l'on mêle les parents dans le serment sur la vie d'eux et qu'on mentionne le nom d'un des parents derrière, là on a un problème de kibbud avaim, c'est ramené dans la halakha, et donc du coup c'est interdit.
C'est marrant parce que, enfin je dis marrant, je croyais moi que dire sur la Torah, c'est interdit, parce que c'est pas, on s'amuse pas avec des sujets pareils. Mais bon, vous nous
alors,
dites
j'ai pas dit pas sur la Torah.
Ah,
j'ai
ah
pas, bon. Vous avez bien fait attention. J'ai dit, voilà, si on prend quelqu'un qui dirait sur la mezouza, sur des objets. Mais là encore, il faudrait pas qu'il l'attrape en main, parce que sinon, il rentre dans des problèmes qui sont beaucoup plus, dans des sujets beaucoup plus problématiques.
D'accord. J'ai fait un éder. Ou alors, je suis dans un doute, que dois-je faire pour m'en sortir?
Alors, le temps imparti nous étant compté, on ne va pas rentrer maintenant dans la halakhot de comment s'en sortir, d'autant plus que ce sont des halakhot compliquées. Mais en gros, allez voir un rave qui s'entourera de deux autres personnes qui s'y connaissent en halakha, deux autres rabbanim, et il y a une procédure à faire lorsque quelqu'un a fait un éder et qu'il ne peut pas l'accomplir ou qu'il doit l'annuler. Le rave se chargera de mettre en place cette procédure, mais automatiquement, lorsqu'on a une question de nédarim, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes et graves, prendre le réflexe d'appeler un rave.
Très bien. Il se trouve que moi, je l'ai fait une fois à Teret Nedarim. Et c'est vrai qu'il y a un vrai, le Rav, puisque si c'est un Rav sérieux, en l'occurrence, c'était Rav Rosenberg Zatzal, il te pose des questions, hein. Il te pose pas comme ça. En fait, j'avais fait le Neder de rester debout pendant Kaddish après le décès de mon
grand
papa.
Classique.
Après le décès de mon papa. Et tout d'un coup, bon voilà, ça y est, ça fait plusieurs années. Et voilà, Rav Rosenberg, avec deux témoins, il fait des choses, c'est sérieux. Hein.
Alors sachez déjà, Bernard, que ce n'était pas deux témoins, c'était deux dayanim dans l'absolu. Enfin, en tout cas, ils avaient le rôle de juge. Et que même si vous n'aviez pas fait le néder de rester debout pendant Kaddish, rien que le fait de l'avoir fait, ça veut dire de rester debout plusieurs fois pendant Kaddish sans dire le néder, eh bien ça aurait été considéré comme un néder. Il aurait fallu passer par la case rave.
Eh bien sachez que c'est ce qui s'est passé. J'y avais pas pensé. Après, on m'a dit, ben maintenant, il faut que tu annules.
Bravo.
On voit que je suis face à un érudit. Rav David Abendanan, merci pour ces explications, pour cet enseignement donc sur la différence entre un néder et juré, ce qu'on appelle en hébreu une shvoua. Merci à vous, bonsoir.
Bonsoir,
semaine prochaine.
Bernard.
sur votre téléphone portable. Retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.